France Culture.
Le journal est signé Aurore Richard. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et tous. Si ce vol spectaculaire a eu lieu, c'est un échec. La ministre de la Culture, Rachida Dati, était auditionnée cet après-midi par des sénateurs après le cambriolage du Louvre. Vous l'entendrez en début de journal. Alors que chaque euro compte dans les discussions autour du budget de la France à l'Assemblée, quelle place pour l'écologie et le financement de la transition écologique? Des éléments de réponse avec Annabelle Grelier. À la une, au Proche-Orient, le Premier ministre israélien a ordonné des frappes immédiates sur la bande de Gaza. Dans ce journal, nous serons aussi au Japon pour la première journée du procès de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Et puis la communauté internationale appelle au calme au Cameroun après des manifestations durement réprimées. Et avant de revenir sur l'audition de la ministre de la Culture après le cambriolage du Louvre, l'actualité, c'est au Proche-Orient où le Premier ministre israélien a ordonné des frappes immédiates et puissantes sur la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou accuse le Hamas de violer l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre. Le mouvement islamiste palestinien ayant restitué des restes d'un otage dont une partie de la dépouille avait déjà été récupérée par l'armée, provoquant la colère des autorités et des familles d'otages. De son côté, le Hamas dit reporter la remise d'une dépouille d'otages en raison de violations de la trêve par Israël. On reparle de la situation au Proche-Orient en détail dans le journal de 19h. On revient en France où la ministre de la Culture est formelle lors de son audition au Sénat cet après-midi devant la commission de la Culture, 8 jours après le spectaculaire cambriolage au musée du Louvre. Des failles sécuritaires ont bien existé, a assuré Rachida Dati. 8 joyaux de la couronne de France ont en effet pu être dérobés en plein jour grâce à un simple monte-charge, un butin estimé à 88 millions d'euros. La ministre de la Culture, Rachida Dati.
Je le redis, parce que c'est aussi important de le redire et de l'affirmer, si ce vol spectaculaire a eu lieu, c'est donc un échec. C'est un échec pour tout le monde, c'est un échec aussi, un échec pour le musée du Louvre. Des failles sécuritaires ont bien existé. Elles ont bien existé et donc il faudra y remédier. Dès mardi, j'ai annoncé le lancement de l'enquête administrative qui doit rendre ses conclusions mercredi soir sur la base de nombreuses auditions et analyses de documents internes. Et en toute transparence, je prendrai toutes les mesures qui s'imposent, d'une part pour sécuriser très rapidement le musée, et d'autre part pour revoir une nouvelle organisation plus adaptée.
Et avant cette audition, les sénateurs de la Commission de la Culture ont visité les installations de sûreté du musée du Louvre. Et la conclusion de ces parlementaires est sans appel. La sécurité de l'établissement n'était pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un musée aujourd'hui. Emma Voglimaxi.
Les sénateurs ne sont pas venus voir la Joconde, mais des postes de contrôle de sécurité. Et leur visite est loin de les avoir satisfaits, explique Laurent Lafont, sénateur LR du Val-de-Marne et président de la Commission de la Culture.
Il y a de nombreuses améliorations à faire. On est sur une organisation de la sécurité qui n'est pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un musée aujourd'hui. Et il est indispensable de réaliser enfin les travaux nécessaires.
Le problème, c'est le manque de personnel, mais aussi le matériel de surveillance qui est obsolète, selon Pierre Ouzoulias, sénateur PCF des Hauts-de-Seine.
Vous avez la juxtaposition de plusieurs phases de systèmes de sécurité qui ont du mal à travailler ensemble. Et puis surtout, quand vous mettez des caméras numériques, vous avez la nécessité de renforcer la bande passante. C'est des travaux très lourds d'ailleurs.
La faute à un budget alloué à la sécurité beaucoup trop faible selon lui.
C'est une institution qui n'a pas réussi à s'adapter à l'augmentation de la fréquentation. C'est le plus grand musée du monde. C'est 30 000 visiteurs par jour, vous voyez ce que c'est. Hein. Et les moyens n'ont pas suivi. Aujourd'hui, on paye pour ça.
Pour y remédier, le républicain Laurent Lafont veut des changements rapides.
Il faut retenir qu'il faut absolument mettre en œuvre le schéma directeur de sécurité à travers le plan Louvre Renaissance. C'est 80 millions d'euros.
Un budget conséquent qui s'explique par le vieillissement, mais aussi par la difficulté de sécuriser un musée dont le bâtiment de 73 000 m² est un palais aux très nombreuses baies vitrées et dont la structure est difficilement modifiable puisqu'elle est classée.
Et dans cette affaire, deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. L'examen du projet de loi de finances se poursuit à l'Assemblée. La taxe Zucman sur les hauts patrimoines est au cœur de toutes les discussions avant même son arrivée dans l'hémicycle. Le Premier ministre a déclaré que pour rien au monde, il n'accepterait de toucher au patrimoine professionnel. Il ne faut pas que les compromis soient des compromissions, a ajouté Sébastien Lecornu. Alors que le PS propose une version allégée de la taxe Zucman, soit une taxe de 3% sur les hauts patrimoines à partir de 10 millions d'euros, en excluant les entreprises innovantes et familiales. La version de l'économiste Gabriel Zucman prévoit, elle, un impôt minimum de 2% sur les patrimoines à partir de 100 millions d'euros. Et c'est dans ce contexte de discussion tendue autour de budget qu'il est difficile de parler écologie et encore plus de financement de la transition écologique. Le gouvernement a pourtant publié sa stratégie pluriannuelle de financement de la transition écologique, la SPAFT, un document qui n'engage pas l'État, mais un document d'information qui sert aux parlementaires et au public. Il permet de dresser l'état des financements des acteurs économiques et les scénarios d'investissement nécessaires pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et a priori, il faut comprendre que l'État prévoit de réduire ses efforts, Annabelle Grelier.
Selon ce document, il va falloir augmenter les investissements bas carbone de 82 milliards d'euros en 2030 par rapport à 2024 pour que la France tienne ses objectifs climatiques. Une stratégie qui ressemble plus à un vœu pieux tant le gouvernement, à la recherche d'économies pour réduire le déficit de la France, prévoit dans le budget 2026 de nombreuses coupes d'aides et d'investissements pour la transition écologique. Le fonds vert, par exemple, l'enveloppe destinée aux collectivités locales pour financer l'adaptation au changement climatique, serait amputée de 500 millions d'euros, moins 32 millions d'euros pour le financement des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales, moins 500 millions d'euros pour l'aide à la rénovation énergétique des ménages à travers MaPrimeRénov', ou encore une taxation accrue sur les centrales photovoltaïques installées avant 2021. Bref, autant dire que la stratégie annoncée ne correspond pas aux décisions politiques, dénonce Emeline Notari de Réseau Action Climat.
On sait l'argent qu'il faut mettre sur la table. La question maintenant, elle n'est plus combien il faut mettre. La question, elle est surtout pourquoi on ne les met pas. Et ça, ce serait une vraie question à laquelle il faudra que le gouvernement, à un moment ou à un autre, réponde. Changement climatique, il n'est pas mis en pause parce qu'il y a un problème de déficit. Problème de déficit qui est d'ailleurs creusé par le changement climatique. Là, on améliore que facialement la situation, pour l'année 2026 peut-être, mais elle sera payée, ne vous inquiétez pas, en 2030, en 2050, etc. Et c'est les décisions d'aujourd'hui qui vont créer le prochain choc économique.
L'inaction climatique a d'ailleurs été évaluée. Citant un rapport en juin de la Banque de France, la Cour des comptes rappelle qu'un statu quo des politiques menées face au dérèglement climatique conduira à une perte de 11,4 points de croissance du PIB pour la France d'ici à 2050.
Les précisions d'Annabelle Grelier. Les chiffres du chômage avec une hausse d'1,6% du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, au troisième trimestre par rapport au deuxième. Selon le ministère du Travail, cette augmentation s'explique par l'inscription désormais automatique des allocataires du RSA et des jeunes en parcours d'insertion. Sans ces nouveaux inscrits, l'augmentation aurait été de seulement 0,7% sur le trimestre. Être ouvertement homosexuel et faire de la politique, est-ce compatible ou est-ce encore aujourd'hui tabou? Des élus de toute sensibilité politique ont accepté de témoigner dans un documentaire de Jean-Baptiste Marteau et Renaud Saint-Cricq. Il sera diffusé ce soir à 21h sur France 5. Ils décrivent une homophobie toujours présente en politique comme dans la société. Mais ils soulignent également, Rosalie Lafarge, une évolution des mentalités ces 30 dernières années.
Le point de départ de ce documentaire, c'est cette phrase prononcée à l'Assemblée il y a un peu moins de 2 ans par celui qui vient alors de s'installer à Matignon, Gabriel Attal.
Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité.
En entendant ces mots, le journaliste Jean-Baptiste Marteau se dit que quelque chose a changé. Les 7 hommes et 3 femmes qui ont accepté de se livrer dans son documentaire le confirment, même si l'homophobie est loin d'avoir disparu. L'écologiste Mélissa Camara en a récemment fait l'expérience sur les réseaux sociaux à la naissance de sa fille.
J'ai des messages qui parlent de ma fille comme d'une abomination. Des messages d'appel au meurtre.
À Éclan-Nenon, dans le Jura, le maire Gabriel Bremont a lui découvert un matin de nombreux murs de son village tagués.
Le maire en rut, Pédophile, mais tu te rends compte, pédophile ?
Pédophile.
Pédophile.
On n'imagine plus aujourd'hui ce genre de situation. Enfin,
mais l'élu moi, a reçu le soutien de toute la classe politique. Ça l'a marqué. C'est nouveau, relèvent plusieurs témoins du documentaire, encore marqué par la violence des débats autour du PACS, puis du mariage pour tous. Aujourd'hui, de plus en plus de politiques assument ouvertement leur homosexualité. Et c'est nécessaire, insiste par exemple l'ancien ministre macroniste venu de la droite, Franck Riester.
D'être un responsable politique qui est homosexuel permet à des jeunes de pouvoir accepter qui ils sont, le faire accepter à leur famille ou à leur entourage beaucoup plus facilement.
Et à la société, plus largement, d'après une enquête menée par l'IFOP l'an dernier, même si c'est trois fois moins qu'il y a 40 ans, près de 20% des Français trouveraient encore choquante l'homosexualité d'un prochain président.
Rosalie Lafarge du service politique de France Culture. Des familles descendantes de harkis espèrent pouvoir enfin identifier les 27 sépultures d'enfants retrouvées en 2023 dans le cimetière de Saint-Maurice-l'Ardoise dans le Gard. Pouvoir mettre un nom sur chaque défunt, pouvoir lui offrir une sépulture digne. Ces familles ont demandé des prélèvements ADN effectués au début du mois par la gendarmerie et l'Institut national de recherche archéologique préventive. Anouk Caron, ces ADN seront ensuite comparés à ceux de familles harkis.
Ces prélèvements ADN sont une véritable source d'espoir pour Chérifa, descendante de harkis. L'une de ses cousines est enterrée dans le cimetière de Saint-Maurice-l'Ardoise.
Ça représente la possibilité de nommer quelqu'un qui avait été laissé pour compte. C'est faire parler les morts pour trouver un apaisement futur pour les vivants.
Comme tous les enfants enterrés dans ce cimetière, sa cousine n'a pas de tombe individuelle. Son nom est inscrit sur une stèle avec celui des autres décédés. Elle s'appelait Tassadit et morte dans un camp dans les années 60 à l'âge de 2 ans.
Ce que je sais de cette petite fille, je sais la douleur de ses frères en fait, d'avoir perdu leur petite sœur, mais je sais guère plus finalement.
Ces analyses génétiques représentent donc beaucoup pour sa famille et ils ont aussi une autre dimension.
Ça témoigne aussi de l'intérêt et de l'importance pour l'État français de reconstituer cette histoire qui est peu glorieuse.
Un avis partagé par Nadia Guafria, présidente de l'association Soraya, pour la mémoire des enfants d'anciens combattants harkis décédés dans les anciens camps.
C'est une réparation de la mémoire. On a été écoutés, on a été entendu, parce que souvent on écoute mais on nous entend pas.
Et avec ces prélèvements ADN, les familles espèrent aussi qu'elles pourront se recueillir sur des tombes décentes où reposeront leurs défunts.
Le reportage d'Anouk Caron, d'ici Garloser pour France Culture. Au Japon, le procès de l'assassinat de l'ex-premier ministre Shinzo Abe s'est ouvert aujourd'hui. Il y a 3 ans et 3 mois, l'ancien dirigeant japonais était assassiné par arme à feu en pleine rue à Nara. Et c'est dans cette même ville du centre du Japon que se déroule le procès de son assassin présumé, Tetsuya Yamagami. Notre correspondante au Japon, Karine Nishimura, a suivi la première journée d'audience.
Menotté, tenu par un policier à l'aide d'une corde passée à la taille, Tetsuya Yamagami avait un visage inexpressif en entrant dans la salle d'audience. Après la lecture des chefs d'inculpation par un procureur, il a simplement déclaré « tout est exact », reconnaissant avoir tué Shinzo Abe. Sourcil épais, longue roue flaquette, cheveux noués sur la nuque, Yamagami, 45 ans, écoute passivement. Eito Suzuki, essayiste, auteur d'un ouvrage sur Yamagami.
Il est certain qu'il aborde ce procès avec sérieux, mais son attitude aujourd'hui laisse hélas penser qu'il a déjà abdiqué. Il sait qu'avec ce crime, il a fichu sa vie en l'air, cela ne fait aucun doute.
Dans la petite salle d'audience de 67 sièges, dont plus de 30 occupés par des journalistes japonais, la présentation des armes fabriquées par Yamagami, les vidéos des tirs d'essai avec ses fusils artisanaux ont été les temps forts de cette première audience. Pour Maître Fujimoto, l'un de ses 4 avocats, les procureurs pourraient réclamer la sentence la plus lourde du code pénal.
La probabilité pour que les procureurs requièrent la peine de mort n'est pas nulle et nous nous préparons en tenant compte de cette possibilité.
Ce serait alors exceptionnel dans le cas d'un homicide unique. La stratégie de défense consistera à convaincre les 3 magistrats et 6 jurés que le parcours de vie cabossé de Yamagami explique en partie son geste.
Karine Nishimura depuis Nara au Japon. Après la réélection de Paul Biya au Cameroun, contestée par son principal rival Issa Tshiroma Bakary, des manifestations ont secoué le pays ces derniers jours et elles ont été durement réprimées par les autorités. Sur place, le calme est précaire. Aujourd'hui, la situation encore fragile, avec un bilan toujours incertain. Et cela inquiète au-delà des frontières camerounaises. L'ONU, l'Union européenne et des ONG appellent au calme. Nathaël Charbonnier.
Une chose est sûre, oui, il y a eu des morts, oui, il y a eu des blessés et oui, il y a eu de nombreuses arrestations dans le pays par le régime au pouvoir. Une succession de oui qui a amené l'ONU à appeler à la retenue et l'Union européenne à s'exprimer avec l'un des porte-parole de la Commission, Anouar El Hanouni.
L'Union européenne exprime sa profonde préoccupation face à la répression violente et nous déplorons la mort par arme à feu de plusieurs civils. Nous soulignons en outre l'importance de garantir la sécurité et l'intégrité physique de tous les acteurs politiques de ce processus.
Une commission prudente qui reste silencieuse et ne salue pas le vainqueur proclamé Paul Biya. Il faut dire que le plus âgé des présidents africains est connu pour diriger son pays d'une main de fer, comme le rappelle Ilaria Allegrozzi de Human Rights Watch.
Un pays, le Cameroun, où les manifestations pacifiques ont été souvent interdites, où les activistes, les journalistes, les défenseurs des droits humains ont toujours fait face à des attaques. Un pays où l'opposition politique a été régulièrement réprimée.
Et l'ONG de demander aussi que Paul Biya et son régime garantissent le respect des droits de l'homme au Cameroun.
Les précisions de Nathanaël Charbonnier. L'encyclopédie en ligne Wikipédia a désormais un concurrent. Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, a lancé hier Grokipédia, une encyclopédie entièrement générée par son intelligence artificielle Grok. Milena Elig de l'agence de vérification de l'information de Radio France, bonsoir.
Bonsoir Aurore et bonsoir à tous.
Grokipédia est donc présenté comme une alternative plus neutre à Wikipédia que le milliardaire américain accuse de trop pencher à gauche.
Le but de Grokipédia.com, c'est la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, a tweeté ce matin Elon Musk, en guerre depuis plusieurs années contre ce qu'il a rebaptisé Wokipédia, l'encyclopédie collaborative et selon lui contrôlée par des militants de gauche qui rédigent les biographies et écartent certaines sources conservatrices. Sur Grokipédia, on trouve déjà près de 900 000 articles en anglais, mais son fonctionnement est opaque, sans conditions générales d'utilisation, sans responsabilité éditoriale et sans hiérarchie claire des sources. Quant au mécanisme de correction, il existe, mais il n'est pas public à la différence de Wikipédia où chaque affirmation peut être débattue et vérifiée collectivement.
Est-ce que le contenu est vraiment différent ?
Sur certains sujets clivants, la différence est flagrante. Si on prend la page consacrée à la chaîne américaine CNN, Grokipédia insiste dès les premiers mots sur les accusations de biais pro-démocrate, tandis que celle consacrée à la très conservatrice Fox News souligne plutôt les succès d'audience de la chaîne. Quant à l'article consacré à George Floyd, cet Afro-Américain étouffé en 2020 sous le genou d'un policier et dont la mort avait entraîné d'importantes manifestations Black Lives Matter, il s'ouvre sur un rappel très détaillé de son casier judiciaire et de sa consommation de drogue. La neutralité promise semble donc toute relative.
Milena, est-ce que Grokipédia peut menacer l'avenir de Wikipédia ?
L'IA, en tout cas, représente un vrai risque pour l'encyclopédie collaborative qui a enregistré une baisse de 8% de sa fréquentation en un an. Les internautes se tournent en effet de plus en plus vers ChatGPT ou Gemini ou Grok. Mais la fondation Wikipédia reste philosophe. Elle rappelle que, je cite, « le savoir de Wikipédia est et restera toujours humain, un savoir dont les entreprises d'IA dépendent pour générer du contenu. Même Grokipédia a besoin de Wikipédia pour exister ». Fin de citation.
Merci beaucoup Milena Elig de l'agence de vérification de l'information de Radio France. C'est une coupe massive. Le géant américain du commerce en ligne Amazon annonce la suppression de 14 000 postes. Et ce n'est qu'un début, a déjà laissé comprendre Andy Jassy, le patron d'Amazon. Pas de précision sur les pays concernés. En revanche, il a été indiqué que ces suppressions toucheraient l'effectif des bureaux, alors que la direction développe et mise désormais sur l'intelligence artificielle. Et puis les 4 finalistes du prix Goncourt 2025 ont été dévoilés. En lice, Natacha Apana avec La nuit au cœur, Emmanuel Carrère pour son roman Kolkhoz, Caroline Lamarche avec Le bel obscur et Laurent Mauvignier pour La maison vide. Le nom du lauréat sera désormais connu le 4 novembre prochain. La météo pour demain, ce sont des nuages globalement sur tout le pays, des petites pluies aussi sur le littoral atlantique, de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine. La partie est de la France va, elle, démarrer la journée de demain avec quelques rayons de soleil et un ciel voilé. Côté température, il fera entre 8 et 19 degrés le matin, 11 degrés à Strasbourg, 12 à Rennes, 14 à Bordeaux, ça grimpe à 16 degrés à Nice et le maximum 19 degrés, c'est attendu à Ajaccio.